Merci de nous avoir rejoints ce soir sur Radion pour le 65e numéro de Wagon Livre. Bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le savez, le pays est en pleine effervescence politique en raison de l'approche du premier tour des élections présidentielles le 22 avril prochain. Et l'émission de ce soir s'inscrit parfaitement dans l'actualité puisque nous allons évoquer l'histoire du palais de l'Élysée avec François Dorcival qui fait paraître une version revue et augmentée de son roman de l'Élysée, paru il y a quelques années aux éditions du Rocher. Le palais de l'Élysée, bâti sous la Régence, meublé par la marquise de Pompadour, épargné par la Révolution, propriété du roi, de l'empereur et de la République, est le palais de toutes les histoires de France, de la grande comme de la petite. L'entretien que vous allez entendre d'ici quelques minutes sur Radion a été enregistré en mars dernier à Dijon, alors que François Dorcival était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne. François Dorcival est président du comité éditorial et membre du conseil de surveillance de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Il collabore également au Figaro Magazine et au Spectacle du Monde. Il est un familier de l'Élysée depuis plus de 30 ans et donc il nous entraîne avec ce nouveau livre, le nouveau roman de l'Élysée paru aux éditions du Rocher. Il nous entraîne au sommet même du pouvoir. Et je lui ai demandé au tout début de notre échange, pour quelle raison il était tombé sous les charmes de l'histoire du palais de l'Élysée.
Parce que c'est le lieu du pouvoir. C'est le lieu du pouvoir. Bien sûr, c'est la résidence du président de la République depuis 1848, mais c'est un lieu de pouvoir quasiment depuis la monarchie. Pas tout à fait tout de même, puisque à l'origine, ce palais est une résidence secondaire. Quand la cour est à Versailles, eh bien, le constructeur de ce palais, le comte d'Evreux, l'avait bâti dans l'idée, au fond, de pouvoir recevoir à Paris et d'être digne de ses invités. Il y restait très longtemps, jusqu'à sa mort. Le palais a été construit entre 1720 et 1722.
Donc sous la Régence.
Sous la Régence, absolument. Et lui-même, donc, est mort au mois de janvier 1753. Et au mois de juillet de cette année-là, une personne célèbre de Versailles, qui est la maîtresse du roi depuis plusieurs années, la marquise de Pompadour, se rend à l'Élysée parce qu'elle veut un hôtel à Paris. Et elle se rend à l'Élysée. Elle tombe sous le charme de ce très joli hôtel particulier qui est vraiment pur 18e, et elle va l'acheter. D'abord, elle le loue, et ensuite, elle l'achète, et elle va le décorer, et donc elle va le garder jusqu'en 1764, c'est-à-dire l'année même de sa mort. Donc, c'est effectivement un palais où se sera toujours joué la comédie du pouvoir ou le vrai pouvoir.
Et il passe, il change souvent de main.
Oui.
Et c'est ce que vous dites aussi, ce qui est formidable, c'est que en dépit des secousses de l'histoire, jamais il ne sera détruit, même sous la Commune de Paris.
Absolument.
Il y aura tout de même le drapeau rouge qui sera hissé sur le mât au centre de la cour du palais de l'Élysée, mais
absolument
jamais détruit, jamais incendié, ce qui n'a pas été le cas, par exemple, du palais des Tuileries, qui a été un temps le centre, le siège du pouvoir royal.
Eh bien, c'est précisément parce qu'il y avait les Tuileries et que la Commune ou la Révolution se sont attaquées aux Tuileries que l'Élysée a été protégée. C'est grâce aux Tuileries que nous avons l'Élysée d'une certaine façon. Alors, quand le pouvoir était aux Tuileries, l'Élysée servait en quelque sorte de maison d'accueil, de maison d'hôte, de résidence pour les personnalités étrangères. Mais effectivement, si l'Élysée a échappé à ces événements, s'il n'a été ni pillé ni détruit, c'est bien parce que le pouvoir était aux Tuileries et que l'Élysée était secondaire. Il ne l'est pas toujours resté.
La Convention, par exemple, installera de grosses machines d'imprimerie.
Ah oui, vous avez tout à fait raison. Mais oui, c'est tout à fait extraordinaire. La Convention, elle utilise ce bâtiment comme étant un bâtiment pour y entasser soit du matériel d'imprimerie pendant quelque temps, et puis ensuite on se pose la question de savoir à quoi on va le destiner. On y entasse du mobilier, des choses comme ça. Après que, en fait, ce palais de l'Élysée est appartenu à la duchesse de Bourbon. Nous l'avons quitté avec Madame de Pompadour. Madame de Pompadour l'a légué au roi Louis XV.
Oui, il y a eu le banquier d'abord.
Oui, le roi Louis XV l'a cédé au banquier qui s'appelle Nicolas Beaujon, qui a fait faire un certain nombre de travaux, etc. Et puis, il est revenu dans le domaine royal. Et dans le domaine royal, c'est la duchesse de Bourbon qui l'a obtenu. Et évidemment, la Révolution venant, le bien a été saisi. Et la duchesse de Bourbon l'a donc perdu. Elle le retrouvera un bref moment au moment de la Restauration. Mais ce qui est très amusant, c'est que c'est Louis XVIII, donc récupérant en quelque sorte l'Élysée, va échanger l'Élysée en proposant à la duchesse de Bourbon un échange. Vous me donnez l'Élysée et moi je vous offre l'hôtel de Matignon. Avouez que c'est quand même très amusant.
Ce qui est incroyable, c'est que Louis XIV va faire construire le château de Versailles, donc il voudra quitter Paris parce qu'il avait gardé un très mauvais souvenir de la Fronde, cette horreur de la concentration du pouvoir, donc il voulait amener la cour à l'extérieur de Paris. Et de Gaulle, qui n'aimait pas beaucoup l'Élysée, a pensé un temps aller s'installer en tant que président de la République plutôt au château de Vincennes.
Au château de Vincennes, à l'école militaire, aux Invalides, il a hésité. Il a hésité parce que l'Élysée est un hôtel particulier. Ce n'est pas un hôtel de très grande dimension. En réalité, quand on détaille, il a tout de même une certaine dimension. C'est en gros 3000 mètres carrés de surface couverte et puis 2 hectares, 20 000 mètres carrés de jardin, ce qui est au cœur de Paris, à deux pas de la Concorde, tout de même tout à fait considérable. Mais enfin, ça n'est ni le Louvre, ni les anciennes Tuileries. Et donc le général était inquiet de la superficie dont il disposait. Et puis, il se disait aussi, il y a tout de même beaucoup d'événements qui se sont rapprochés de l'Élysée. Est-ce que c'est bien calculé que d'avoir un palais du pouvoir aussi près de la place de la Concorde, aussi proche d'éventuelles manifestations qui puissent être éventuellement entourées par l'émeute? Et donc il a hésité. Et on lui a dit, mais mon général, si vous voulez vous installer à Vincennes, ça va coûter très cher. Et à partir de ce moment-là, il a dit, bon, ben, il faut y renoncer.
Il y a comme un goût amer en nous. Comme un goût de poussière dans tout. Colère qui nous suit partout. Il y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, évidemment, comme des enfants, mais pas comme avant. Et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût. ça sert de courir partout. On garde cette blessure en nous. Comme une éclaboussure de boue qui ne change rien, qui change tout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants, mais pas comme avant.
Radion. Radion. Elle avait remporté le Grand Prix de l'Eurovision en 1965 pour Poupée de cire, poupée de son. Elle aura 65 ans en octobre prochain. C'était France Gall, il y a quelques instants sur votre radio locale, qui nous interprétait, évidemment. C'était d'ailleurs en 1987 et sur des paroles, évidemment, de Michel Berger. Retour à l'histoire du palais de l'Élysée, un temple du chuchotement, un bunker aux secrets les mieux gardés et où s'entrecroisent et s'entrechoquent des destinées, où se trame le meilleur et le pire. Il est question ce soir du nouveau roman de l'Élysée, un livre paru aux éditions du Rocher sous la plume de notre invité, François Dorcival. J'ai appris, donc en lisant votre nouveau roman de l'Élysée, Trois siècles d'histoire de France aux éditions du Rocher, j'ai appris que les parents du poète Alfred de Vigny avaient loué un appartement au premier étage d'une aile de l'Élysée. Mais là, il faut penser que le palais, à l'époque, est un lieu d'instabilité. Enfin, on ne sait pas trop quoi
voilà,
en faire.
Nous en revenons à l'époque révolutionnaire. À l'époque révolutionnaire, donc, le palais était entre les mains de la Convention, et la Convention a décidé à un moment donné de le louer. Et il a été loué à des entrepreneurs flamands, la famille Auvin. Et cette famille, naturellement, a voulu que le bien puisse rapporter. Et donc ils ont fait deux choses. D'une part, dans l'aile des petits appartements, c'est-à-dire l'aile est de l'Élysée, ils ont divisé cette aile en différents appartements, et puis ils ont également loué les jardins, créé des restaurants, des bals-musettes, etc., tout ça pour faire de l'animation et pour faire rentrer des recettes. Et donc, les parents du jeune Alfred de Vigny ont en effet loué un trois-pièces, dans l'aile est de l'Élysée, et c'est là, donc, dans les cours de l'Élysée, que le jeune Vigny a passé ses vacances. Mais il y a bien plus que ça. Il y a bien plus que ça. Le long de la rue du Faubourg Saint-Honoré, il y avait le long de la façade actuelle du palais de l'Élysée, qui est gardée par les gardes républicains, qui est majestueuse, etc., il y avait des boutiques tout le long de la façade, des boutiques. Il y avait notamment un marchand de tabac, un buraliste, qui était là depuis 80 ans, ce qui veut dire que depuis toujours, on avait quand même loué un certain nombre de locaux. Eh bien, pour réduire les frais de conservation du palais. De la même façon, à l'autre bout, à l'angle de la rue du Faubourg Saint-Honoré et de l'avenue Marigny, il y avait là une boutique, plus qu'une boutique, le magasin du boucher qui traitait ses animaux dans la cour de l'Élysée et vendait sa viande à l'étal de l'avenue de Marigny. C'est tout de même assez drôle.
Le palais de l'Élysée a enregistré toutes les grandes secousses de l'histoire de France. Et c'est terrible, finalement, quand on aime Napoléon, de se dire que ce lieu qui est, je crois, une icône dans la tête des Français, comme la maison officielle, le siège du pouvoir républicain,
C'est terrible de se dire que Napoléon a signé son acte de capitulation, il a, la fin de l'Empire est morte, enfin a été signée au palais de l'Élysée.
Oui, mais c'était aussi là que Napoléon. Alors Napoléon, comment est-ce qu'il était devenu le propriétaire de l'Élysée? Parce que à la sortie de la Révolution, les Murat, c'est-à-dire sa sœur Caroline, avait acheté, grâce à un peu d'argent de Napoléon lui-même d'ailleurs, avait pu acheter l'Élysée. Elle avait acheté l'Élysée avec le prince Murat, son mari. Ils y avaient fait des transformations. Et puis quand ils étaient partis pour le royaume de Naples, eh bien, Napoléon avait repris l'Élysée, où il avait installé à un moment donné Marie-Louise. Et puis, donc, effectivement, c'est là, en 1812, qu'il prépare sa campagne de Russie. Il est aux Tuileries, mais pour être tranquille, il prépare les plans de sa campagne de Russie à l'Élysée. Il y tient des conseils des ministres. Il va, et donc, il va se trouver à plusieurs reprises à l'Élysée. Et lorsqu'il part pour sa dernière campagne, son ultime campagne, à l'issue des 100 jours qu'il part pour Waterloo, il quitte l'Élysée. Il quitte l'Élysée. C'est à l'Élysée qu'il s'est installé durant les 100 jours, beaucoup plus qu'aux Tuileries. Et donc, il part pour le Nord. Il est battu à Waterloo. Où revient-il? Il revient à l'Élysée. Et c'est là qu'il se rend compte que le désastre est total. Désastre militaire, il l'a constaté, mais désastre politique aussi, il n'est plus suivi. Et donc, les députés et les sénateurs, si l'on peut dire, les députés et les sénateurs viennent lui dire « Sire, c'est fini, c'est terminé ». Et donc, c'est là, comme vous l'avez dit, qu'il signe son abdication le 22 juin 1815.
Et vous citez Victor Hugo qui disait « C'est à l'Élysée que Napoléon Ier a fini et que Napoléon III a commencé ». Donc finalement, l'Élysée, c'est le lieu où naissent les pouvoirs, les régimes, c'est le lieu aussi où ils se terminent. Et peut-être que là, nous sommes en train de vivre la fin du quinquennat sarkozien. On ne sait pas au moment où nous parlons.
Naturellement, nous n'en savons rien. Et ce que l'on peut dire simplement, c'est que, en effet, Napoléon Ier a abdiqué à l'Élysée. Louis-Napoléon Bonaparte, son neveu, est élu président de la République au mois de décembre 1848. La Deuxième République a décidé que le président serait logé à l'Élysée pour ne pas aller aux Tuileries. Et donc, c'est au mois de décembre 1848 que Louis-Napoléon Bonaparte entre à l'Élysée. Et c'est là qu'il va préparer son coup d'État. Donc c'est là qu'il va préparer la naissance du Second Empire. Et dès qu'il sera, que le coup d'État sera accompli, qu'il va se proclamer empereur, Napoléon III.
Et non plus prince-président.
Il va effectivement partir pour les Tuileries, traverser la place de la Concorde. Il fera beaucoup de travaux à l'Élysée, beaucoup pour pouvoir recevoir, etc. Et donc, aux Tuileries, lorsque, en 1870, le 4 septembre, il tombe à Sedan, c'est le désastre, et il va partir pour l'exil.
Alors, parlons du président Lebrun. On a parlé de la capitulation de Napoléon donc, à l'Élysée en 1815. Le président Lebrun, qui est le président de la République française, je crois qu'il était élu en
32.
Et donc son septennat s'achève en 39 au moment de la déclaration de la guerre. Et donc il ne capitulera pas à l'Élysée.
Non, il va quitter l'Élysée le 10 juin au matin, le 10 juin 1940 au matin, sous la pression de la formidable offensive allemande qui a commencé, comme vous le savez, le 10 mai et donc le 10 juin. Un mois plus tard, Lebrun quitte l'Élysée, laisse l'Élysée derrière lui. Paris est une ville ouverte. Les Allemands arrivent le 14. Et Lebrun, pendant ce temps-là, va aller à Bordeaux, où il va constituer son dernier gouvernement de la Troisième République, un gouvernement dont le président du Conseil s'appelle le maréchal Pétain. Et c'est lui qui va aller négocier l'armistice, ce qui est tout de même une chose terrible, parce que ça signifie que l'on baisse les armes, que l'on capitule devant l'ennemi, l'armistice avec les Allemands et avec les Italiens d'ailleurs, avant que de se replier à Vichy, où l'Assemblée nationale élue en 1936 va lui accorder les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940, à la suite de quoi disparaît la Troisième République.
Alors pourquoi le maréchal Pétain ne s'installe-t-il pas au palais de l'Élysée ?
Eh bien, il en a rêvé. Il en a rêvé et cela ne s'est pas fait. Cela ne s'est pas fait parce que la France était à ce moment-là, après les clauses d'armistice, divisée en deux, la France libre et la France occupée. Cela va durer jusqu'au mois de novembre 1942. Mais à ce moment-là, il y avait donc une France libre, en quelque sorte, dont la capitale politique était Vichy.
La zone nono.
Et puis la zone occupée, dont la capitale restait naturellement Paris. Et Pétain a envisagé de se déplacer, d'aller dans une première étape à Versailles, et puis ensuite de pouvoir venir à Paris, où les ministères continuaient à peu près de fonctionner. Et ça ne s'est pas fait. Pourquoi ? Mais parce que les Allemands se disaient « Nous avons entre les mains un gouvernement français, nous l'avons à notre main, nous allons continuer de négocier. » Nous allons continuer de lui faire croire qu'il peut rentrer à Paris et notamment à l'Élysée, à Matignon et ailleurs. Mais pour qu'il puisse s'installer, il faut que la France devienne une alliée réelle de l'Allemagne et de l'Allemagne hitlérienne. Et donc, ils ont en quelque sorte utilisé ce chantage tout le temps, pendant la durée de la guerre.
On apprend qu'en 1940, donc, le mobilier de l'Élysée et donc précieusement, mis à l'arrière, est envoyé à Aubusson, parce qu'on a peur que les Allemands, détruisent l'Élysée, ce qu'ils ne feront pas, d'ailleurs.
Oui, il y a deux craintes. Il y a celle que vous venez de dire, c'est-à-dire le fait que les Allemands s'emparent de telle ou telle œuvre d'art.
Puis il y a les archives,
Il y a des archives, mais il y en a une autre crainte, c'est que Paris soit bombardé, ou que Paris soit l'objet de dégradations très, très, très dommageables. Et dans ce cas, eh bien, on sauve le mobilier de l'Élysée.
Plein soleil sur le petit banc de notre rencontre, la petite pelouse de nos beaux jours, dans le petit square de mes amours, les papillons tournaient en rond dans le petit square de mes amours. Un petit banc chaque jour me rappelle notre rencontre, notre toute première étreinte, premier baiser angoissé que nous avons échangé à l'heure de nous séparer, mais sa passion était feinte. Le rendez-vous sous la montre géante d'un horloger à la nuit presque tombée, comme il était en retard sur le trottoir, cherchant à l'apercevoir. Ce rendez-vous sous la montre géante d'un horloger, à la nuit presque tombée, comme il n'est jamais venu, je me suis retrouvée nue dans les bras d'un étranger, dans les bras de l'horloger, qui sous sa montre géante, me voyant désemparée, m'avait fait monter, profitant de mes sanglots, piqua ma virginité. Depuis je remonte les montres de mon mari l'horloger, je n'arrête plus de pleurer. Aïe, quel triste souvenir, jusqu'à l'instant de mourir, je ne ferai que maudire ce rendez-vous sous la montre géante d'un horloger, à la nuit presque tombée, de vivre chaque jour sur le square de mes amours, ça me fait pleurer. V'là qu'il neige sur le petit banc de notre rencontre, la petite pelouse de mes beaux jours, dans le petit square de mes amours, de gros flocons tournent en rond dans le petit square de mes amours. Un petit banc devient tout blanc, un petit banc devient tout blanc, un petit banc devient tout blanc.
Radionne. Radionne. Au cœur de la Bourgogne, Radionne.
Alors, il y avait un abri anti-aérien qui n'a servi à rien, que absolument. Le président Albert Lebrun avait fait construire.
Tout à fait.
Et qui deviendra par la suite, qui sera réaménagé.
Oui.
Je crois qu'à une époque, il a dû abriter des costumes,
oui.
ou c'est ça. Et après,
oui.
il est devenu un PC, un poste de commandement sous
oui.
Giscard, si je
absolument.
Vous ai bien lu.
Vous avez très bien lu. Et donc, cet abri anti-aérien, c'était un abri anti-bombardement. Parce que le président Lebrun redoutait en effet que Paris ne soit bombardé. Et donc, entre 1936 et 1938, a été aménagé un abri sous la cour est de l'Élysée, abri dont le but était de pouvoir accueillir tout de même une centaine de personnes, avec l'aération, avec les salles de travail, d'infirmerie, éventuellement de repos, etc. Et donc c'est un endroit tout à fait important, ça n'est pas un petit cagibi. Et puis Valéry Giscard d'Estaing, en 1975, président de la République depuis un an, se fait ouvrir ce souterrain, pose des questions, constate que l'on a entassé là toutes sortes de choses, comme des outils de jardin, des vêtements, des uniformes, etc., en se disant, mais qu'est-ce que c'est que
cette histoire,
ce Capharnaüm. Or, à ce moment-là, il y avait depuis le temps du général de Gaulle la force nucléaire et le président de la République et le chef des armées. Et donc celui qui, en dernier recours, peut autoriser ou pas l'emploi de la force nucléaire. Et donc Giscard a décidé de transformer ce souterrain en PC Jupiter, celui où descend tout président de la République depuis 35 ans, pour y recevoir en quelque sorte les informations qui concernent nos armements nucléaires.
Alors, le palais de l'Élysée a été endormi entre 40 et 44. Il prend la poussière.
Il prend la poussière, vous avez raison, et l'étoile d'araignée. Et pourtant, en 1942, il y a un personnage qui va s'y installer pendant 6 mois, mais qui ne sait pas qu'il s'y installe pour 6 mois. Il pense qu'il va s'y installer, lui, pour une longue durée peut-être. C'est l'amiral Darlan. L'amiral Darlan était ministre du maréchal Pétain dans le dernier gouvernement de cette Troisième République. Il a succédé à Laval comme chef du gouvernement du maréchal Pétain. Et puis, les choses se dégradent, se défont, etc. Des crises interviennent. Et Pétain, finalement, se sépare de Darlan et reprend Laval au mois d'avril 1942.
Un petit peu à la demande des Allemands.
À peine, comme vous dites. Vous avez bien raison. Et reprenant Laval à la demande des Allemands, Darlan est évidemment très vexé, mais il conserve, nous sommes encore au printemps 1942, donc toute la France n'est pas occupée. Et donc, il conserve le commandement en chef des armées françaises. Et il décide de lui-même, étant le dauphin en titre du maréchal Pétain, titre que n'a pas encore obtenu Laval, dauphin et commandant en chef des armées françaises, il décide de s'installer à l'Élysée, au nez et à la barbe de tout le monde, en disant Laval, Val, Matignon, eh bien moi je m'installe à l'Élysée. Et c'est à l'Élysée qu'il va recevoir le maréchal von Rundstedt, c'est-à-dire celui qui occupe, qui commande les troupes d'occupation en France. Donc, il va recevoir, en fait, tous les dignitaires allemands, il les reçoit à l'Élysée, ce qui est spectaculaire. Et donc, il a fait remeubler un certain nombre de salons, de pièces, de chambres, etc., pour son secrétariat et ses officiers. Et grâce à cela, eh bien, il va installer, en quelque sorte, une sorte de pouvoir, mais à l'automne 1942, il décide de faire une grande tournée en Afrique du Nord. Son fils est déjà à Alger, son fils malade. Et donc, le 8 novembre 1942, il se trouve à Alger au moment du débarquement des Américains et des Anglais. À la suite de ça, il sera en quelque sorte le représentant du gouvernement français à Alger. Et la bataille qui va se nouer à ce moment-là sur la légitimité, parce que vous avez les Américains et les Anglais qui sont là, mais vous avez aussi les représentants du général de Gaulle qui sont là, les résistants qui sont là. Et c'est ainsi que Darlan va faire les frais de cette bataille et sera assassiné, de sorte que l'Élysée va retomber dans la léthargie qui était la sienne.
Alors elle se réveille, le palais de l'Élysée se réveille en 1946 avec Vincent Auriol qui va être le premier président de la République de la 4e République.
Absolument. Il se réveille au mois de, en fait, oui, au mois d'octobre, novembre 1946, mais depuis 1945, tout le monde savait que de nouveau il y aurait un président de la République à l'Élysée. Il n'y en avait pas encore. Le général de Gaulle allait-il être président de la République? On ne le savait pas. Allait-il se présenter ou pas, etc. Et donc on fait comme si, en tout cas, et donc on remeuble l'Élysée, on remet en état les pièces, les salons, l'électricité, le chauffage, tout ce qu'il faut. Et au mois de novembre 1946, après les élections législatives, les huissiers qui, eux, avaient vécu à l'Élysée depuis toujours, étaient revenus, etc., les huissiers font visiter à la presse le palais de l'Élysée à la veille de l'élection de Vincent Auriol au mois de janvier 1947.
Alors on va évoquer des aspects plus sinistres, plus graves et plus pesants de la vie de ce palais de l'Élysée. J'aimerais, François Dorcival, que vous évoquiez le président Pompidou et sa maladie, son cancer secret. Alors, François Mitterrand aussi était malade, mais Pompidou, pendant longtemps, on peut dire que le pouvoir a essayé, plutôt mal que bien, de cacher la maladie du président Pompidou.
Le président Pompidou a été élu en 1969, au lendemain du départ du général de Gaulle. Il a été élu contre un candidat centriste, ce qui était une originalité de cette élection, qui était Alain Poher, et Pompidou est donc élu en 1969. Et très vite, le diagnostic de ses médecins, c'est qu'il est atteint par un cancer du sang. Eh bien, Pompidou n'admettait pas que, étant élu, étant au pouvoir, on puisse dire que la France était conduite par un président qui était affecté par une maladie. Et donc, cette maladie, il va la tenir cachée, en quelque sorte, caché à tous, à son entourage, ses collaborateurs, son épouse. Il n'y a que son médecin qui le savait. Mais il va vivre avec, faire comme si celle-ci n'existait pas, jusqu'à ce que, malheureusement, la maladie l'emporte. Et elle va l'emporter au bout de 4 ans, c'est-à-dire à partir de 1972-73. Et les premiers à le savoir réellement.
Alors, c'était les services secrets américains.
Ce sont les services secrets américains.
Alors c'est donc vrai cette histoire de dérivation, oui, des canalisations, absolument, des WC. Donc ils absolument ont fait des prélèvements sur les matières
absolument
fécales.
Et ils ont fait ces matières, ces prélèvements. Et c'est à cause de ces prélèvements que les choses sont devenues pas publiques, mais connues en tout cas d'un certain nombre de chancelleries. Tandis que les Français, eux, étaient étonnés de voir leur président se transformer à mesure où les médicaments étaient devenus le traitement plus intense. Et donc, effectivement, le président s'affaiblissait. Et son dernier voyage pour aller voir Brejnev en Crimée a été un moment atroce, extrêmement dur. Et effectivement, le dernier Conseil des ministres est le seul au cours duquel Georges Pompidou ait dit à ses ministres, eh bien voilà, vous avez compris que je passais de sévères moments, mais ne vous inquiétez pas, je vais me reposer pendant 3 jours et je reviendrai. Et puis, au bout des 3 jours, il est mort.
Nous nous retrouverons d'ici quelques minutes avec le journaliste et éditorialiste François Dorcival qui parle ce soir de son dernier ouvrage qui a pour titre « Le nouveau roman de l'Élysée, 3 siècles d'histoire de France » paru aux éditions du Rocher. Mais nous écoutons d'abord une jeune femme qui a été découverte et encouragée par le chanteur belge Jules Bocard. Voici Barbara d'Alcantara qui nous interprète « J'étais fragile ». Rendez-vous d'ici quelques minutes sur Radion.
fragile comme du papier, j'étais facile à déchirer. Le moindre petit vent contraire m'envoyait de suite en enfer. J'étais fragile comme le cristal, des jours très bien, des jours très mal, à la merci de l'air du temps. Un mot me griffait jusqu'au sang. J'étais l'argile du potier, je me laissais toujours modeler. Un jour j'ai voulu être moi, plutôt qu'une autre sous tes doigts. J'ai voulu savoir qui j'étais, étais-je l'algue ou la forêt? Étais-je la soie ou la laine, le granit ou la porcelaine? J'avais vers moi-même, même s'il en coûte à ceux qui m'aiment, trop habitués à me voir, docilement suivre leur couloir. Aujourd'hui, je me suis de près, je ne me quitte plus jamais, je ne m'éloigne plus de moi. J'allais de guingois, je vais droit. Je rebondis, je suis heureuse et puis je ris. Il n'y a plus de vent contraire, je nage au milieu de la mer. Je suis légère comme une plume, je sors enfin de la brume. Je suis bien dans ma propre peau, je navigue au fil de mon eau.
J'étais fragile, interprété par Barbara d'Alcantara. Toujours à bord du magazine littéraire de Radion, c'est Wagon Livre, sur votre radio locale. Nous vous proposons ce soir, à moins de 3 semaines du premier tour des élections présidentielles, un voyage au cœur de l'histoire du palais de l'Élysée, avec François Dorcival, journaliste et éditorialiste, qui vient de faire paraître aux éditions du Rocher le nouveau roman de l'Élysée, avec pour sous-titre « 3 siècles d'histoire de France ». Alors, le palais de l'Élysée, il y a des moments de joie, moment de tristesse, le lieu du pouvoir, on y naît parfois, on y meurt, et je pense notamment à la mort d'un président qu'on a appelé le président Soleil, qui est sans doute, vous le dites, un des présidents de la République les plus populaires de la Troisième République, effectivement, et c'est Félix Faure qui meurt dans des circonstances cocasses.
Absolument.
Presque digne
de la comédie
de boulevard. Enfin, il y a un mélange de tragique et de comédie de boulevard.
Oui.
On craint le scandale aussi.
On craint le scandale. Au fond, peu de présidents sont morts à l'Élysée. Très peu. Il y a eu très très peu de morts à l'Élysée. Pourquoi ? Parce que, au fond, Georges Pompidou n'est pas mort à l'Élysée. Les présidents assassinés ne l'ont pas été à l'Élysée. François Mitterrand est mort après avoir quitté l'Élysée, etc. Le seul président qui soit mort à l'Élysée, c'est bien Félix Faure. Et il est mort dans des circonstances tout à fait tragicomiques. Tragique parce qu'au fond, cette histoire de la mort de Félix Faure, elle a été rendue ridicule parce qu'il a été le président impliqué dans l'affaire Dreyfus. Nous sommes au temps de l'affaire Dreyfus. Alors, c'est vrai qu'il meurt dans les bras de sa maîtresse.
Qui a 28 ans de moins que lui.
Mais oui, elle a 28 ans de moins que lui. C'est une jeune personne qui est la femme d'un artiste peintre très connu de la Troisième République. Elle s'appelle Marguerite Stenel et elle est tombée dans les bras de Félix Faure, ou plutôt Félix Faure est tombé dans ses bras. Et Félix Faure, comme vous l'avez dit, le président Soleil, c'est drôle parce que naturellement, ce à quoi il pensait, c'était le roi Soleil. Et il se disait, mais moi qui n'ai pas beaucoup de pouvoir, pourquoi est-ce que je ne serais pas le président Soleil ? Et s'il est le président Soleil, ben, il est naturel qu'il ait des favorites. Et donc il avait cette favorite qui venait le voir assez souvent. Vous savez qu'il avait installé une ligne de téléphone entre l'Élysée et le pavillon où habitait Marguerite Stenel. Et donc, il est mort dans ses bras. Et ensuite, on en a fait toute une histoire parce que Eh bien, parce que Félix Faure était accusé par les uns de vouloir condamner Dreyfus et par les autres de vouloir défendre Dreyfus. Et cette histoire s'est finalement traduite dans la comédie que l'on a installée autour de sa mort dans les bras de cette jeune femme. Car la mort de Félix Faure, pour ceux qui défendaient le capitaine Dreyfus, c'était une comédie dont il était la victime. Et pour ceux qui pensaient le contraire, c'était peut-être la victime lui-même d'un complot.
Voilà. C'est Drummond qui a un petit peu mis en avant la thèse de l'empoisonnement.
Oui, c'est ça. Tout ça ne tient pas du tout la route.
En fait, il est mort d'une hémorragie cérébrale foudroyante.
Il est mort des médicaments qu'il utilisait et qui, effectivement, ont créé cette hémorragie.
Alors, il faut quand même rappeler le mot de l'abbé.
Ah, mais bien. Oui, parce que tout cet épisode est un merveilleux épisode.
C'est très Troisième République.
C'est complètement Troisième République. Mais donc, Félix Faure, il est franc-maçon, mais il respecte beaucoup les convictions religieuses de sa famille. Donc, son directeur de cabinet, voyant qu'il est en train d'agoniser, dit il faut convoquer tout de suite un prêtre. Or, l'Élysée, la paroisse de l'Élysée, c'est la Madeleine. Et on ne peut pas trouver le curé de la Madeleine parce qu'il est absent, et donc un garde républicain se poste au rue du Faubourg Saint-Honoré. Il arrête le premier prêtre qu'il voit venir, et en effet il y en a un qui est à bicyclette, c'est l'abbé Renaud qui vient là et qui marche rapidement vers l'appartement où se trouve le président Félix Faure au plus mal, et l'abbé en question demande au garde républicain: est-ce que le président a encore sa connaissance? Et le garde républicain lui dit: non, monsieur l'abbé, la connaissance, elle est partie par le jardin.
C'est absolument magnifique.
C'est une merveilleuse histoire. Il y a une autre très jolie histoire qui est celle de Clémenceau qui disait il s'était voulu César, il a fini Pompée.
Alors, Clémenceau, par exemple, il a un culot incroyable avec Poincaré. Il fait un scandale.
Fantastique.
Il tape de la canne sur le bureau du président Poincaré.
Fantastique, parce qu'il était furieux. C'était une colère terrible. Mais Clémenceau et Poincaré, c'était deux grandes personnalités. Raymond Poincaré a été un formidable président de la République, au point qu'il a fait un septennat, qu'il n'a pas voulu le renouveler, mais on l'a rappelé comme président du Conseil, c'est-à-dire comme chef du gouvernement.
Il est président dans les moments
Il est président de la République durant la guerre de 14. Et durant la guerre de 14, on se dit, mais le Kaiser va forcément gagner contre cette pauvre démocratie française où les gouvernements défilent. Eh bien non, grâce à Poincaré et Clémenceau qui se réconcilient, eh bien la guerre, elle est quand même gagnée au prix de terribles souffrances.
Alors, on va jouer une petite séquence People. Il y a eu, bien sûr, le mariage du président Sarkozy avec Carla Bruni. Vous rappelez également, dans votre livre, dont je rappelle le titre, le nouveau roman de l'Élysée aux éditions du Rocher, vous rappelez que le président Gaston Doumergue épouse une agrégée en 1931.
Mais oui, il y a eu deux mariages à l'Élysée. Le mariage de président de la République, en tout cas, le mariage de Gaston Doumergue, qui lui a attendu les derniers jours de son septennat, le mois de juin 1931. Il quittait l'Élysée le 15 juin et il a décidé quand même de faire une fleur à la personne avec laquelle il vivait, qui était une veuve, qui était professeur en effet d'anglais, agrégé d'université, etc. Cette personne, il l'épouse donc le 1er juin 1931 au premier étage de l'Élysée, dans un salon vert qui n'est pas le même salon vert du premier étage de l'Élysée, où Nicolas Sarkozy va épouser Carla, deuxième mariage qui va se dérouler à l'Élysée, mariage célébré naturellement par le maire du 8e arrondissement, Gaston Drucker, en 1931, et François Lebel en 2008. Mais ce qu'il y a un peu plus encore, c'est que le 2 février 2008, le président de la République se marie à 11h dans ce salon vert de l'Élysée, alors que dans le même salon, 2 heures plus tôt, à 9h du matin, il présidait une réunion de crise avec ses chefs d'état-major et ses ministres pour résoudre l'incendie qui était en train de se répandre au Tchad et notamment dans sa capitale de N'Djamena.
Dernière question avant de nous séparer. Est-ce qu'on peut imaginer une présidente ou un président de la République qui aurait l'audace de délocaliser le pouvoir, de faire reconstruire un immeuble ou une résidence totalement moderne, totalement repensée et adaptée peut-être aussi aux fonctions d'un pouvoir républicain au XXIe siècle? Le palais de l'Élysée s'avérant parfois trop étroit, ou Pompidou le disait lui-même que c'était une suite de salons, que c'était pas commode, que c'était pas vivable.
Oh, tous les présidents de la Ve République y ont songé, pas ceux de la IVe, pas ceux de la IIIe, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas l'exécutif que les présidents de la Ve République ont eu. Donc le général de Gaulle voulait s'installer ailleurs, au château de Vincennes, à l'école militaire, aux Invalides, etc. Puis on l'en a dissuadé. Georges Pompidou pensait comme vous qu'en effet ça n'était pas adapté. François Mitterrand lui aussi, il a pensé installer l'Élysée à l'Arche de la Défense. Quant à ça, Nicolas Sarkozy, il a fait faire des plans pour éventuellement compléter telle ou telle annexe de l'Élysée. Mais tous ont dû se résoudre à rester à l'Élysée. Pourquoi ? Parce que l'Élysée, c'est un lieu symbolique. C'est l'Élysée. Symbolique. La Maison Blanche, c'est la Maison Blanche depuis plus de 2 siècles. Eh bien, pour l'Élysée, c'est pareil. Il est évident que je ne vois pas un président de la République faire reconstruire l'Élysée ailleurs.
Bon, en tout cas, pour l'instant, ce qui est stable, sûr et certain, c'est le palais d'Élysée et votre dernier ouvrage, le nouveau roman de l'Élysée, 3 siècles d'histoire de France, que nous avons, au cours de cet entretien, à peine survolé, bien évidemment. Émission à prolonger par la lecture de votre livre aux éditions du Rocher. François Dorcival, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie de votre gentillesse et de vos questions. Merci beaucoup.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, 2 inconnus, et ce matin sur l'avenue, 2 amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.
Avant de nous séparer, je vous rappelle les références de l'ouvrage dont il a été grandement question ce soir, le nouveau roman de l'Élysée par François Dorcival, disponible auprès de vos libraires aux éditions du Rocher. Place à un jeune auteur rencontré le 25 mars dernier au 4e salon du livre de Brassy, petit village situé à quelques kilomètres de l'Orme, dans la Nièvre. Il s'agit d'un jeune homme de 37 ans qui réside dans l'Aube, à Troyes très précisément, et qui va nous présenter son premier roman, un ouvrage publié aux éditions Execo, intitulé « Le théorème de Rorschach ».
Alors donc ce livre raconte l'histoire d'un professeur de mathématiques américain qui tombe fortuitement sur une formule inconnue et insoluble. Et suite à cette découverte, va s'enchaîner tout un nombre d'événements dont il n'a pas du tout la maîtrise. Et pour s'en sortir, il va devoir comprendre qu'il devra déchiffrer la formule pour comprendre pourquoi justement des gens se mettent à le poursuivre à cause de ça. Donc en fait, ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est de prendre un personnage normal, à qui n'arrive jamais rien de particulier, et à qui juste...
Une existence banale qui
tout d'un coup se trouve totalement bouleversée par des événements dont il n'a pas du tout la maîtrise. Et ce qui m'intéressait justement, c'était d'essayer de voir quelles peuvent être les réactions de quelqu'un à qui n'arrive jamais rien de particulier, quand justement il lui arrive des choses totalement incompréhensibles, des choses dangereuses en plus.
Alors, où allez-vous chercher comme ça ces existences hors du commun?
Alors,
en tout cas pas dans le quotidien.
Non, pas dans le quotidien, mais il y a pas mal de faits d'actualité qui m'inspirent. Je m'en suis pas mal inspiré justement pour ce livre, mais l'idée principale du livre, l'intrigue principale, m'est venue dans un rêve en fait. Voilà. J'ai rêvé d'une formule mathématique qu'on me présentait et qui était insoluble et qui apparemment devait représenter un danger pour certaines personnes. Voilà, donc autour de cette idée principale, j'ai brodé une intrigue et une histoire en m'inspirant de faits d'actualité.
C'est un roman d'un peu moins de 300 pages, tout public.
Tout public, oui, on peut le lire à peu près à partir de, on va dire, 15-16 ans. Voilà.
Et alors, Johan, que faites-vous à Troyes?
Alors, moi, je suis assistant pédagogique dans un collège. En fait, je donne des cours de soutien à des élèves en difficulté.
Ouais. Et vous avez l'impression que les collégiens sont attachés à la lecture comme plaisir?
Malheureusement, de moins en moins, je le constate tous les jours avec dépit. Certains sont encore assez attachés à la lecture. Je vois de grands lecteurs parmi les adolescents que je peux rencontrer, mais malheureusement, la majorité n'éprouve que peu d'attrait pour la lecture, en tout cas. Quelque chose qui leur paraît difficile.
Johan Etienne, au micro de Radion. Il est, je vous le rappelle, l'auteur du Théorème de Rorschach, paru aux éditions Execo, un éditeur militant, comme le précise le site internet de cette maison d'édition installée dans la Marne, à Châlons en Champagne. Quelques manifestations culturelles dans les jours ou semaines à venir, dans l'Yonne et en Bourgogne, à ne pas manquer. À Autun, très bientôt, la 15e fête du livre, les samedis 14 et dimanche 15 avril prochain. Une 15e fête du livre d'Autun organisée par l'association Lire en pays autunois, qui a retenu cette année le thème de la mémoire. De nombreux auteurs sont attendus durant les deux jours dans les salles de l'hôtel de ville d'Autun. Y sont annoncés le pape de la généalogie, Jean-Louis Bocarnot, le journaliste sportif Nelson Montfort, qui signe avec l'aquarelliste Philippe Lorrain un ouvrage consacré au poète-chanteur Jean Ferrat. On pourra aussi se faire dédicacer les derniers ouvrages de la journaliste Françoise Laborde, qu'on connaît bien parce qu'elle a été longtemps la présentatrice du journal télévisé de France 2. Elle est maintenant membre du CSA. On nous signale également, à cette 15e fête du livre d'Autun, la présence du petit-fils de Marcel Pagnol. Ce dernier fait paraître un album entièrement consacré à son grand-père, disparu en 1974. On pourra donc le rencontrer à Autun. Et puis, il faut également citer Jacqueline Monsigny, son mari, le comédien américain Edward Mix. Mais il faut aussi mentionner la présence d'Emmanuel de Varesquiel, la romancière Zoé Valdès, Romain Slocombe, qui a fait partie de la sélection pour le Goncourt 2011, ou encore le psychiatre Philippe Grimbert. Les bourguignons, eux, ne sont pas en reste. Mentionnons la présence de Lucette Desvignes, l'auxerroise chère à notre cœur Barbara Moreau, qui dédicacera « C'est ma tournée », le tome 3 de ses chroniques de mémoire, tout frais sorti des presses, et qui donnera d'ailleurs son spectacle « C'est moi Gadine » le dimanche 15 avril prochain à Autun. On signalera aussi parmi les bourguignonnes de charme Sandra Amani, Lucienne Delisle, et puis des figures très connues, l'ancien président du conseil régional de Bourgogne, Jean-François Bazin, Bernard Moreau-Gaudry, l'autunois Philippe Berthier, spécialiste de Stendhal, mais aussi des auteurs publiés aux éditions de l'Armançon, Ignacio Catalan ou Gérard Calmette, et puis Didier Cornaille, Michel Lagrange, l'illustrateur Chris Flamand, que nous saluons, Joseph Gadret, Pierre Léger aussi. Alors Pierre Léger est chroniqueur littéraire au magazine associatif Vent du Morvan. J'espère d'ailleurs que nous aurons l'occasion de le rencontrer parce que nous serons présents pour Radion à cette 15e fête du livre d'Autun les 14 et 15 avril prochains et nous vous proposerons un compte-rendu de ce beau salon du livre prochainement sur Radion. Le 13 avril prochain, plus proche de nous, cela se passe à la Maison Jules Roy, à Vézelay, à 18h30, le 13 avril prochain. Patrick Chavardès, actuellement en résidence à la Maison Jules Roy, rencontrera le public pour une lecture d'extraits de son dernier livre et d'un monologue poétique intitulé « Hors saison », inspiré de Georges Bataille. Ce texte, « Hors saison », paraîtra dans le prochain numéro de la revue « Contre-attaque ». Lecture donc de texte de Patrick Chavardès le vendredi 13 avril prochain à 18h30 à la Maison Jules Roy à Vézelay. J'ai parlé de Georges Bataille, n'oublions pas qu'il y aura une actualité importante cette année à Vézelay et en France vraisemblablement autour de Georges Bataille puisque nous commémorerons le 50e anniversaire de la mort de cet écrivain. On aura sans doute l'occasion de vous proposer une émission spéciale consacré à Georges Bataille, mais je vous en parlerai en temps voulu. Je vous donne, pour ma part, rendez-vous mercredi prochain, 11 avril, toujours à 21h sur votre radio locale, et justement, je vous proposerai un entretien avec, justement, l'écrivain en résidence à la Maison Jules Roy, j'ai nommé Patrick Chavardès. Patrick Chavardès est poète, il est également le créateur d'une maison d'édition installée à Chalon-sur-Saône, maison d'édition qui s'appelle les Éditions du Limon, et nous aurons donc l'occasion avec Patrick Chavardès d'évoquer deux de ses recueils de textes, Alcôve et L'espérance à point fermé, tous deux parus aux Éditions du Limon. Excellente nuit et merci de nous être restés fidèles. À la semaine prochaine. Au revoir.